Bonjour et bienvenue à Je vais au ciné.
Excusez-moi, je couvre un truc. D'ailleurs, faudra changer la bonnette hein, pour le prochain qui passe derrière.
Ah, quelle horreur. Donc aujourd'hui, on a Antoine.
Bonjour.
Bonjour Antoine.
Mourir.
Et on a Mickaël aussi.
Bonjour.
Aujourd'hui, on va parler des résultats des Césars. Un premier commentaire avant qu'on commence sur les différents films.
Ah, sur les films.
Sur les films,
pas de commentaire.
Sur la cérémonie peut-être.
Petite. Alors, moi
sur la cérémonie. Je crois qu'on n'a pas, on n'a pas 3 heures.
Non, si la cérémonie, mais je l'ai regardée. Je voulais juste voir le lancement de Foresti en fait, parce que je me disais, elle a une pression, la petite dame là sur ses épaules. Et franchement, j'ai trouvé qu'elle s'en sortait, qu'elle s'en est bien sortie en fait dans sa présentation. Juste. Elle a fait 3 petites vidéos où elle reprenait elle parodiait des films et ça j'ai trouvé ça un peu nul en fait. D'ailleurs l'introduction c'était sur c'était quoi leur premier Joker. Je les ai trouvés nuls en fait parce que je trouve que c'est le problème de tous ces comiques là qui essayent de faire des films, ils sont trop dans le rôle de comique et enfin.
Bah c'est avant tout un détournement, c'est
oui,
le but
c'est un détournement,
que le film en fait,
ça me fait pas rire.
Que jouer en fait.
Moi je trouve pas ça rire, ça, je trouve pas ça rigolo en fait, mais je trouvais qu'elle s'en était plutôt bien sortie ouais, dans l'ensemble.
Bah ouais, elle a fait, compte tenu de l'ambiance, ouais, elle s'en est sortie honorablement, oui.
Après c'est quand même un gros foutage de gueule hein, quand même hein, parce que le prix du public autant j'avais des réserves sur les Oscars, sur les classifications là, entre le meilleur film étranger qui remporte aussi le meilleur film de l'année, là c'est le prix du public,
c'est les misérables,
alors qu'on sait que c'est pas les misérables hein, le prix du public hein, on est d'accord.
Oui mais après étant donné qu'ils ont changé les règles en novembre dernier,
non, même,
pour ceux qui ont loupé l'épisode, avant le prix du public il récompensait ni plus ni moins le film qui a fait le plus d'entrées, le film français qui a fait le plus d'entrées dans l'année, ouais. Point à la ligne. Maintenant ils ont changé l'attribution en fait, ils prennent les 5 premiers films, enfin les 5 films français ayant fait le plus d'entrées. Et du coup, c'est le jury des Césars qui choisit. Donc forcément, c'est sûr. Enfin voilà, partant de ce principe de calcul-là, c'était sûr que qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, il avait aucune chance.
Oui, mais tu t'appelles pas ça le prix du jury. Enfin, je trouve que c'est vraiment
Le prix du public. Oui, justement, le prix du jury, à la limite, pourquoi pas. Ouais.
Pourquoi pas. Mais le prix du public, je trouve que c'est déjà dénigré. Déjà que le public qui va voir ce genre de film a tendance à être dénigré dans le milieu du cinéma parce que. On considère que ces films sont souvent des grosses bouses et que c'est honteux d'aller voir ça. Bon, c'est un point de vue. Je me dis, bon, c'est bien à la limite, pourquoi pas qu'il le célèbre ce genre de succès aussi, parce que mine de rien, c'est des films à succès qui payent aussi des petits films plus intimes qui trouvent leur financement. Donc il y a tout un engrenage et tout le monde a sa place là-dedans. Donc là, je trouve ça, c'est assez.
Si ça fait autant d'entrées, c'est que ça plaît quand même.
C'est pas non plus, voilà. C'est que je pense pas qu'il y ait 3 millions de crétins. Enfin, il y en a certainement, mais c'est facile de traiter le public qui va voir ce genre de film de crétins, en fait. Et je pense que c'est un petit peu plus subtil que ça.
Un film qui arrive à trouver son public, c'est pas toujours le cas, même pour des bons films. Donc,
tout à fait. Mais alors après moi ça m'a fait un peu penser à la journée de la femme où on encense les femmes les femmes et les minorités et puis à la fin le prix du meilleur réalisateur c'est Polanski, bon c'est un peu ça a même je pense même gâché le prix qui était après en fait les Misérables qui a regagné, je comprends pas pourquoi,
le meilleur film est normal puisque vu que c'est toujours le jury qui choisit
c'est un peu logique. Après il y a aussi cette règle aussi qui a fait débat justement dans le fait que Polanski ait gagné le César du meilleur réalisateur, c'est que il y a une règle nouvelle encore, ils ont changé pas mal de choses qui fait que le film qui a gagné le César du meilleur film ne peut pas gagner le César du meilleur réalisateur. Il faut obligatoirement que ce soit 2 films différents.
Ah ouais, d'accord. Parce que déjà, moi, je trouve
alors pourquoi
bizarre.
On ne sait pas.
C'est débile.
Parce que ça, franchement, cette règle, elle n'a vraiment aucun sens. Parce que si tu fais un bon film, c'est parce que en général, tu as un bon réalisateur derrière.
Enfin, c'est réalisation par réalisateur. Hein. Mais
Le César de la meilleure. Oui. Bon, globalement, on est quand même dans le même ordre d'idées.
Je trouve que c'est quand même. C'est pareil, c'est une belle escroquerie parce que. Enfin, je l'ai déjà dit, puis je le pense encore. Parasite, c'est un bon téléfilm, en fait. Hein, c'est un téléfilm à gros budget. Non, mais. Alors, on l'a déjà dit la dernière fois, mais quand Portrait de la jeune fille en feu. Portrait de la jeune fille en feu, ou même. Grâce à Dieu, là. Le j'accuse, je trouve. Alors, par contre, son prix du costume n'est pas
attends,
volé.
Attends, tu t'es emmêlé parce que tu as parlé de Parasite au début.
J'ai parlé de Parasite, non.
Tu voulais dire j'accuse.
Ah, bah alors, oui, j'accuse. Ouais. Comme je disais, c'est un bon gros téléfilm. C'est un téléfilm à gros budget. À la limite, tu peux gagner un set d'or. Je sais pas si ça existe encore, ça, les sets d'or.
Non, ça n'existe plus depuis longtemps.
Oula. Excusez-moi, mon bon monsieur. Mais ouais, je trouve qu'il y avait de la. Franchement, de la qualité dans la sélection, et que ce soit Polanski, ouais, bon, c'est un peu. Bon, pourquoi pas.
Il a eu aussi le meilleur scénario, meilleure adaptation.
Ouais, alors ça, il aurait fallu lire le bouquin pour. Ça, c'est difficile à juger, hein, cette catégorie.
De quoi, meilleure adaptation?
Ouais.
Pour J'accuse?
Pour J'accuse, ouais, parce que c'est un bouquin à la base.
Oui. Ah. Bah, c'est pour ça que c'est pour une meilleure adaptation.
Ouais. Ah non, c'est le scénario original qui a gagné la Belle Époque.
Oui, la belle époque, Nicolas Bedos.
Alors après, je trouve qu'il y a quand même un gros perdant dans l'affaire, c'est quand même. C'est Toledano et Nakache. Parce qu'alors, ils n'ont rien gagné du tout.
Oui, bah ça, je ne suis pas surpris. Pas du tout.
Ouais, et après, moi, je suis aussi surpris que Les Misérables, il ait autant de prix. Enfin,
oui, c'est vrai. Mais je ne suis pas surpris que. Quand on a fait la sélection, quand on a fait nos pronostics, il y a quelques semaines maintenant, on lui avait rien donné non plus. Hein, donc,
oui, c'est...
Et puis on voulait pas lui en donner non plus.
Ah, on l'avait mis au même niveau que Misérable, et au final, Misérable a raflé quand même pas mal de prix.
C'est pas faux.
Il y en a un qui a tout, l'autre qui a rien.
Ouais, alors,
il a pas rien.
Mais le film est aussi nettement plus politique, Les Misérables, que Hors Normes.
Non, mais c'est là où je trouve que des fois c'est une belle.
Et puis Hors Normes, on est plus sur de la comédie dramatique, donc quand il y a comédie dans le titre, déjà.
Ouais, après, c'est là où je trouve que c'est très. Ça veut tout et rien dire, c'est très politique. Enfin, c'est pas politique, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un peu de l'escroquerie au final, parce qu'on met en avant les diversités et les femmes, et puis voilà, ils ont eu leur soirée, et puis ça change, j'ai peur que ça change pas grand chose au final. Enfin,
il y a de fortes chances que ça ne change pas grand chose. Hein. Ouais. Parce que de toute façon, après, les Césars, c'est un peu. Enfin, le cinéma en manière générale, c'est un monde. Enfin, un monde artistique, j'ai pas peut-être pas à part, c'est peut-être beaucoup dire, mais un monde particulier artistique, comme peut l'être le monde de la musique, comme peut l'être le monde de la peinture, comme peut l'être le monde de n'importe quel art au final. Donc autant que les évolutions de la société peuvent être marqué dans des films, encouragé dans le monde du cinéma, etc., etc., autant que je ne pense pas que ça va pas changer le monde, quoi.
Je sais pas si tu peux comparer. Bon, alors là on change de sujet, mais je sais pas si tu peux comparer. Je trouve que le cinéma, ça me semble, de mon point de vue qui est tout petit, ça me semble vraiment autre chose que la musique et la littérature. Hein. Tu peux écrire tout seul chez toi, tu peux peindre tout seul chez toi, tu peux composer chez toi. Le cinéma, ça implique tellement de personnes et tellement d'argent.
Oui, mais au final, ça change rien à la conclusion. En fait, c'est un monde avec des gens qui travaillent ensemble. C'est un milieu. Certes, faire un film, c'est pas un truc que tu fais tout seul, contrairement à un tableau ou un bouquin, mais quand même, ça reste des gens au final qui sont dans le même milieu.
Tu peux rentrer plus facilement dans le milieu de la musique que dans le milieu du cinéma. Le cinéma, c'est très très compliqué.
Tout dépend quelles sont tes ambitions.
Bah, même
parce qu'en musique, tu peux y rentrer, mais pour quoi faire, c'est encore autre chose.
Tu peux y rentrer plus facilement. En plus, on a des moyens plus faciles. Enfin, qui permettent de se faire connaître plus facilement. Le cinéma, si t'as pas de budget, si t'as pas des gens qui sont capables de faire un film, c'est mort.
Ça demande un investissement de fou.
Hein, un investissement, ça c'est sûr.
C'est,
ouais.
C'est mort. Mmh. Le cinéma, c'est pas faire des vidéos sur le web, quoi. C'est pas la même chose.
Oui, mais ça peut être une super porte d'entrée.
Oui, mais ça fait pas tout.
Bah, ça fait pas tout parce que après, mais il y a, c'est devenu. J'ai, bah là, on va faire, je vais faire une courte parenthèse parce qu'au final, on s'éloigne vachement du sujet. J'ai écouté des interviews du festival de Gérard May, festival du film fantastique. Et notamment où c'était un peu cette année, c'était un peu la fête du film de genre français. Alors oui, ça existe, le film de genre français. Et les réalisateurs francophones qui étaient interrogés trouvaient justement le fait qu'avec qu'il y ait de plus en plus de vidéastes, qu'on puisse trouver à peu près tous les prix des caméras qui font le taf, c'est pas non plus des trucs de fou, mais tu peux faire largement le taf, contrairement à il y a 20 ans où il te fallait une Super 8, de la pellicule et tout ça. Là maintenant, faire un petit court-métrage, faire une petite vidéo, c'est à la portée,
oui, c'est sûr,
entre guillemets, de tout le monde.
Hormis le son.
Oui, mais après, voilà, c'est des trucs qui s'apprend. Mais justement, le fait est que avec toutes ces nouvelles technologies, tous ces réalisateurs qui en parlaient, toutes ces nouvelles technologies à la portée de tout le monde, ça permet de faire des expériences, d'apprendre sur le tas, en pratiquant, à peu de frais. Tu fais une caméra et tu fais tes tests, tu fais ton truc, t'essayes des choses, entre guillemets, sans réel budget. Et une fois, quand t'es sûr, quand t'as appris des trucs, bah là, t'as investi, là, tu cherches des gens, tu cherches des sponsors, tu cherches des acteurs, oui, des trucs comme ça.
Ça reste encore quelque chose de difficile.
Ça reste encore quelque chose de difficile, mais de plus en plus, et encore plus aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des gens qui sont payés pour ça. Toute la journée, ils se mettent des courts-métrages et ils cherchent le prochain Steven Spielberg, le prochain Martin Scorsese, etc. Enfin, du moins, ils essayent.
Mais non, mais l'idée, on ne va pas comparer pendant 300 ans sur le sujet, mais l'idée, c'est quand même de... C'est un milieu, surtout avec des gens qui sont connus ou en tout cas reconnus. Et à partir de là... C'est plus difficile de les bouger que dans la musique. Dans la musique, si t'as disparu pendant 3 ans sans faire un album, t'as disparu complètement. Le cinéma, c'est un peu plus compliqué. C'est déjà des temps beaucoup plus étirés. On fait un film pas en un an, mais souvent en plusieurs années. Ça demande, les projets sont très longs et impliquent beaucoup de gens.
Bien sûr.
C'est différent. On parle des acteurs et des actrices qui ont été récompensés.
Oui.
Il y a eu
Roche Dizem. Toi, t'es content.
Non, mais moi, j'aime bien cet acteur. Après, bon, le film, voilà, ça a permis de faire connaître Roubaix. Voilà. Une ville où j'aimerais aller en vacances.
Je vous avais lancé justement sur Roche Dizem. Je pensais que c'était lui qui allait l'avoir. Finalement, j'ai eu raison.
Ouais, non. Alors, c'est vrai que nous, au niveau de nos pronoms, on est mort. Hein, parce que tout ce qu'on avait.
On n'a pas.
À part si. Bon, la photo, on avait dit. Portrait de la jeune fille.
Jeune fille en feu, ouais.
Il y a eu. Et puis, Swan Harlow pour le. C'est le second rôle,
le second rôle,
ouais. Ouais. Je crois qu'il n'y a que là qu'on a eu bon.
Bah, et puis Fanny Ardant, moi je l'avais pronostiqué, j'avais bon.
Ouais.
Et Anaïs Desmoutiers pour la meilleure actrice.
Desmoutiers, oui.
On l'avait pas.
Ouais, mais en fait, on n'avait pas vu le film, alors c'est difficile. Les actrices.
Oui. C'est compliqué, c'est sûr. C'est compliqué.
Et puis, on n'a pas parlé non plus d'Alexis Mananti, mais elle est misérable. Pour Les Misérables. Je sais plus qu'on avait dit.
J'avoue que celui-là, je me souviens même plus de cet acteur dans les Misérables.
Ah si, c'est le flic. Si, oui, effectivement, ouais, c'était surprenant d'ailleurs parce que c'est le flic crétin en fait dans Les Misérables.
Oui.
C'est marrant de le voir sur scène parce que. C'était un rôle qu'il faisait en fait. Dans l'absolu, je comprends pas que Les Misérables aient eu autant de prix. Enfin, je trouvais ça sympa.
Le meilleur film, bon, à la limite, je peux comprendre. C'est politique, c'est machin, c'est mignon, machin et tout. Le meilleur, c'est. Qu'est-ce qu'il a gagné d'autre ? Il a gagné. Le prix du public. Autant que ça me surprend pas. Autant que.
Dans le micro, Mika.
Comment ?
Dans le micro.
Oui. Oui, toujours. Autant que... du coup, c'est quoi ? C'est l'espoir masculin ? Non, je suis désolé, moi. Je vois pas la performance d'acteur, en fait. Voilà,
Le problème, c'est que peut-être que le jour où tu le verras dans un autre film, tu diras oui. C'est vrai, quand t'as qu'un seul...
Oui.
En plus, il joue un personnage qu'on a envie de détester, donc c'est... c'est difficile d'avoir de l'empathie pour un gars qui est un sombre crétin. En
ah
fait.
Bah bien
enfin,
sûr, bien
qui
sûr.
Est un
ah
bah crétin, ouais. Crétin, pas un crétin, pas un gentil crétin. Donc c'est vrai que c'est pas facile.
Je sais pas. Dans un autre genre, t'as pas d'empathie pour le Joker. Et pourtant, je reconnais que la prestation de Joaquin Phoenix, elle a envoyé du pâté.
Ouais.
Voilà, là, pour le coup, voilà, je reste un peu sur ma faim.
Lina Koudry pour Papicha.
Après, c'est des films moi que j'avais pas vu, alors
ouais,
c'est,
mais
c'est difficile.
Céleste Brunkel l'a pas eu pour.
Effectivement.
Bah, on a parlé de cela. Après, le. Meilleur film d'animation.
Pas vraiment de surprise, là, pour
ouais,
le coup.
Là,
ouais.
J'ai perdu mon corps, et c'est plutôt une bonne chose, je trouve.
Tu l'as vu?
Oui, c'est bien.
Non, j'ai vu la fameuse invasion des ours en Sicile, c'est pas mal, mais. Avoir le prix, je suis pas sûr.
On va attendre le prochain film de ce monsieur parce que premier film d'animation si je me souviens bien, il gagne un César, il est nominé aux Oscars.
Il était à Cannes.
Il a un beau parcours ce film.
Pour un premier film, c'est
surtout un film d'animation.
J'ai eu envie de le voir, mais soit j'étais trop lent, soit il n'est pas resté suffisamment longtemps au lobby.
Il est resté genre 15 jours. Hein, tout
ah ouais,
donc,
le temps que je me réveille, il n'était plus là.
On a aussi le meilleur premier film avec Papicha aussi, de nouveau.
Ouais, alors ça c'est pareil, je connais pas.
Et j'ai perdu mon corps, j'avais oublié, mais
musique
originale aussi. J'ai écouté, bof, je suis pas hyper client.
Sympa.
C'est qui le gars?
Dan Levy.
C'est sympa.
Tu connais Mika?
Non, j'avais jamais
ouais,
entendu
toi,
parler du type avant.
Sorti de Zimmer et des plats, en fait, t'es nul en musique, tu connais rien.
Non, mais c'est son premier, c'est sa première bande originale. Donc,
Mais Mika, il est dans le monde de la musique. Toi, Mika, il connaît des albums avant que toi, tu les connaisses.
Si tu savais le nombre de musiciens qui existent, si je devais tout connaître, j'aurais pas assez de 5 cerveaux.
On en avait parlé, mais meilleur son pour Chant du Loup quand même.
Ah oui, Chant du Loup. Ah, par contre, là, j'étais déçu. Alors, bon, je pense qu'une fois de plus, c'est encore politique. Hein. C'est Papicha.
Papicha.
C'est vrai que pour un premier film, le Chant du Loup, ça aurait été bien parce que voilà, là, c'est un film de genre. Tu en parlais tout à l'heure, Mika.
Oui.
Je conseille à tous ceux qui ne l'ont pas vu de le regarder parce que c'est vraiment bon. Et le film est effectivement basé. Le son a un énorme rôle dans le film et c'est pas volé leur récompense.
La photographie pour la jeune fille en feu.
Ah bah là,
ça non plus, c'est pas volé.
D'ailleurs, c'est pareil, elle, c'est la seule récompense.
Elle est pas partie les mains vides, c'est déjà pas mal.
Elle est partie, ouais.
Elle est partie tout court,
Elle est partie tout court. Ouais.
Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour.
Bon, on a fait à peu près le tour.
Et
voilà.
Donc, on a travaillé la transition vers notre prochain, comment on appelle ça, chapitre. Oui,
chapitre
de
parce
l'émission.
Que, oui, effectivement, le meilleur César du film étranger. On n'en s'en doutait absolument pas, mais c'est Parasite, hein.
Oui, alors bon, est-ce qu'on était obligé de le dire? Ouais, on le dit.
Bah, parce que transition.
Mais de là, après c'est un peu, s'il l'avait pas donné, ça aurait fait bizarre. S'il le donne, on trouve ça à la limite normal. Je sais pas.
Moi, j'aurais aimé le traître.
Le traître.
Ouais.
Marco Bellocchio.
Ah.
Je ne sais
c'est
pas.
Ton côté italien.
Ouais, c'est ça.
Et puis ils ont besoin de ça en ce moment.
Un petit côté Konora. Corona.
On va se faire une petite pause musicale et puis on va s'écouter la grande évasion de Elmer Bernstein.
Bernstein.
Parce que je trouve que ça faisait un peu la grande évasion. C'est
oui. La fin, ouais, effectivement.
Chauve qui peut.
Oui, il court toujours.
Il court toujours. De retour à Je veux au ciné et on va enchaîner avec
un film
yeah,
a movie
The Mother de Bong Joon-ho.
Just Mother
qu'est-ce qu'on peut dire de ce film, qui fait le résumé déjà?
Mika il résume toujours bien, je trouve. Attends, j'entends la mer,
pas du tout de pression. Je pitch Mother. Alors Mother, en gros, c'est... Oula, Larsen. C'est l'histoire d'une mère, comme son nom l'indique, comme le nom du titre, le nom du film l'indique, qui a un grand garçon de 27 ans, un petit peu simplé sur les bords.
Oh, il est gentil, quoi.
Ouais.
Un petit peu, carrément simplé.
Simplé, voilà.
Carrément simplé.
Une mère qui est assez surprotectrice, on peut dire ça. Sauf que ce brave petit gars va s'attirer des ennuis et va être arrêté pour meurtre. Et du coup, c'est le combat de la mère pour innocenter par tous les moyens son enfant. Voilà.
Donc c'est un thriller.
Donc c'est un thriller. Moi, c'est un drame. C'est un drame.
Oui, non, c'est un drame, mais ça reste un thriller parce que l'intérêt du film, c'est de savoir nous en tant que spectateurs qui a tué en fait. Enfin, est-ce qu'il effectivement,
est-ce qu'il l'a tué ou
est-ce
pas?
Qu'il l'a tué ou pas?
Et dans quelles conditions? Et ben voilà. Et petit à petit.
J'étais plus attaché au combat de la mère que au final le résultat de l'enquête. Parce que de toute façon, avec Bong Joon-ho, c'est plus le chemin que le résultat qui compte.
On parte juste avant qu'on parte sur le film, juste pour donc c'est le quatrième film donc de Bong Joon-ho, ouais. Donc c'était le film après The Host, mais avant Snowpiercer. Et Snowpiercer, ouais. Je pense que pour je vais pas dire les, bon, en tout cas une grande partie des cinéphiles, je pense que c'est le film qui l'a fait connaître. Donc moi je l'ai connu.
C'est son film, c'est son film américain.
C'est son film américain.
Ouais, son film un peu plus américain. Donc c'est le film qui a fait une, qui a disons.
Qui a donné une renommée internationale.
En dehors des festivals.
Parce que moi ça restait un réalisateur de festival.
De Cannes.
C'est ça. Donc moi je. Parce que bon, la fin, on va pas la raconter parce que effectivement la fin c'est plus que qui a tué en fait. Parce que elle est une fois de plus d'un cynisme, moi qui m'a franchement dérangé. Et je pense que c'est un film à voir. Alors je sais que beaucoup de personnes, donc avec le succès de Parasite, ont connu Bong Joon-ho avec Parasite. Mais je pense qu'il faut voir. Enfin, de toute façon, il faut voir tous les films. Non, absolument, on n'a pas fait beaucoup. Hein. Donc on peut facilement les voir. Et...
Sauf le premier.
Ah oui, ouais.
Le premier, Barking Dogs, je crois qu'il est sur la Cinéthèque et c'est tout. Ouais. Ce film-là, il est super chaud à trouver. Après, à partir du deuxième, Memories of Murder, ça se retrouve plus facilement. Mais alors, le premier, accrochez-vous.
Ouais. En plus, c'est un film donc purement coréen qui se passe donc en Corée du Sud.
Du Sud.
non, mais par rapport à Okja, où c'est vrai que même Snowpiercer, on était déjà on était dans un futur catastrophique, donc ça se passait un peu partout. Il n'y avait pas vraiment de lieu géographique clairement repéré. C'était dans un train, mais Okja, moi par exemple, c'est ce que j'avais pas aimé dans Okja, c'est que le début du film se passe en Corée et puis après très vite on arrive aux États-Unis. Et je trouvais que là, ça perdait un peu ça perdait un peu de sa saveur. Je pense que c'est peut-être aussi bien ce qui était ça avec dans Parasite, c'est que tout le film se passe en Corée en fait. Enfin, donc si on connaît pas trop, ben on voit une autre culture en fait. Et moi, c'est une des choses que j'ai aimé en fait chez Bong Joon-ho. Et après, effectivement, ses thèmes, si on regarde un peu lui, ben c'est une fois de plus la femme qui est quand même pas bien riche hein, au final, et qui va essayer de remuer ciel et terre avec le peu d'argent qu'elle a, et essayer de retourner les institutions en fait pour sauver son fils, que tout le monde par sa singularité en fait nomme directement comme coupable en fait.
Il y a un côté Bong Joon-ho en fait, il a pas fait des études de cinéma, il a fait des études de sociologie. Ce qui peut expliquer pas mal de choses, en fait, quand on voit plusieurs de ses films. Alors, je ne les ai pas tous vus. J'ai pas vu The Host, j'ai pas vu Barking Dog, parce qu'il est chiant à trouver. Mais dans tous ses films, on retrouve des thèmes très, très reconnaissables. On suit tout le temps des gens relativement démunis, que ce soit Memories of Murder... C'est pas la classe sociale d'en haut, que ce soit de Mother, que ce soit Snowpiercer, que ce soit The Host, même, que j'ai pas vu, mais j'en sais suffisamment pour pouvoir citer ça sans trop de soucis. Et le mélange des genres. Il aime bien jouer avec les gens. Et je vais rebondir sur ce que tu disais en mettant en parallèle Okja. Et Mother. Pour moi, Snowpiercer et Okja ne sont pas regardés avec les mêmes yeux que le reste de sa filmographie, parce que là, ce sont vraiment des films internationaux faits pour être vendus à l'international. Ce que les autres films ne sont pas. C'est des films avant tout coréens. S'ils traversent la frontière, tant mieux. S'ils ne les traversent pas, ils ne les traversent pas. Autant que pour regarder Snowpiercer et Okja, le fait de ne pas connaître le pays, la Corée du Sud, c'est pas gênant. Autant que pour d'autres, c'est un peu plus compliqué.
Là où ça m'a gêné, moi, c'était pour
Memories of Murder,
parce que c'est la police, et effectivement.
La torture.
On regarde ce film avec notre police à nous, en fait, et on se dit, au début, je pensais que c'était une blague, ce qu'il nous montrait, c'était une caricature, et en fait, je me dis, c'est comme ça, en fait, à l'époque, c'était comme ça. Donc, il faut réussir, effectivement, à se détacher de notre culture, en fait, et de plonger dans la culture d'un autre pays en fait, qui est en plus autant il y a beaucoup de fans du Japon en France, autant des fans de la Corée, j'en ai pas rencontré des masses.
Moins, et en tout cas pas de la même façon.
Dans Mother, ça gêne pas du tout là, cette culture japonaise et coréenne. Ce qui est marrant, c'est que moi donc Mother, je l'ai vu deux fois. Je l'ai vu une fois avant d'avoir été en Corée, et je l'ai revu là donc pour l'émission, mais bon, entre-temps, j'avais fait un voyage en Corée, et en fait, c'est marrant, ce qui est normal, je pense, mais il y a plein de détails typiques à la culture coréenne, par exemple, qui m'ont sauté aux yeux, en fait, en le regardant une deuxième fois, qui m'avait complètement échappé la première fois. Alors, je n'en rien du tout à la vision du film, mais j'ai trouvé ça sympathique, en fait. Enfin, je pense que ceux qui connaissent, et moi, je ne connais pas grand-chose, hein, je connais d'un séjour, c'est tout, qui connaissent un peu la culture coréenne, retrouveront plein de trucs, en fait, qui nuisent pas à la compréhension du film si on ne la connaît pas, mais qui rajoutent un petit plus si on la connaît, en fait. Et j'ai trouvé ça super sympa.
Justement, il y a des fois un besoin d'un petit peu de contexte pour comprendre ce qui se passe dans les films de Bong Joon-ho. Tu parlais de Memories of Murder. Memories of Murder, effectivement, c'est l'exemple tape à l'œil, parce qu'effectivement, il y a de la violence policière totalement décomplexée, mais qui est totalement logique avec la période dans laquelle l'action se déroule.
Oui, oui.
L'action se déroule dans les années 80. Et dans les années 80, en Corée, malheureusement, c'était ça. C'était ça.
C'est sûr.
C'est un peu comme dans les films des années 80 en France, où ils utilisaient le bottin pour faire parler les mecs. Ça se faisait, quoi. C'était pas...
Il y a en plus ce décalage de si le film, on le regarde actuellement, où on se dit, mince, mais ça...
Bah oui, mais ça a vraiment existé aussi en France.
Non,
en
mais je suis tout à fait, je suis d'accord. Mais c'est vrai que moi, il m'avait fallu un petit temps avant de rentrer dans ce film. Alors que non, ouais, tous ces autres films, même Parasite, la culture coréenne, même si on la connaît pas, et je pense que
ça passe largement.
Je pense que c'est ce qui a fait le succès du film aussi, c'est que c'est tellement international. Enfin,
Il s'est peut-être un peu plus internationalisé avec deux productions étrangères.
Je ne sais pas.
Mais en tout cas.
Je ne suis pas sûr, hein, parce que moi j'avais entendu une interview pendant le festival de Cannes où il disait qu'il était déjà surpris que. C'est fou en fait, hein, l'histoire. Il était surpris que son film soit sélectionné pour le festival et il se dit mais mon Dieu, si on arrive à intéresser 4 personnes avec cette histoire coréenne, c'est impressionnant. Il faudrait que si vous pouvez la retrouver cette interview en fait. Et c'est impressionnant quand on sait le succès que le film a eu après derrière. On se dit, voyons, pour une petite histoire coréenne, ça va.
Ouais, c'était un succès assez inattendu.
Il a bien cartonné.
Parce que justement, après Okja, il retournait à un film un petit peu plus intimiste qui lui demandait, entre guillemets, moins de travail, moins d'énergie que Snowpiercer ou Okja, qui sont des grosses productions.
Qui sont de la grosse production.
Voilà, on retourne sur quelque chose. Il retourne sur le versant un peu plus.
Qui sont de la grosse production.
Film indépendant.
Pour Bong Joon-ho, parce que c'est pas non plus. C'est pas de la grosse production américaine.
Ah, mais... c'est pas un tentpole, c'est sûr, mais c'est quand même un film à largement plus gros budget que Parasite.
Oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr.
Voilà. Et sinon, pour retourner un petit peu
sur le film,
à Moser. Ouais, ouais. Hein, ça pourrait être pas mal. On retrouve tout ce qui caractérise le cinéma de Bong Joon-ho. Donc, on en a parlé déjà. Donc, je vais pas m'étendre dessus. Les conditions de vie des défavorisés. Là, on en prend un petit peu plein les mirettes à ce niveau-là.
C'est que ça.
C'est déprimant limite. Le mépris des autorités aussi du fait de leur classe sociale. Ça se voit sur deux trucs. L'enquête expédiée en 2 minutes. On a retrouvé une de ses balles de golf à côté. Bon, c'est lui.
Oui.
C'est quoi cette enquête à deux ronds, les gars? Voilà.
Ils ont fait une vague enquête de voisinage où ils l'ont vu pas loin. Donc, effectivement, c'était pas compliqué de boucler l'affaire.
Oui, ils n'ont pas cherché plus loin que le bout de leur nez.
Ils n'avaient pas besoin, ils avaient la coupable idéale.
Mais il y a ce côté aussi de pas trop se prendre la tête. Un deuxième plan du film qui abonde dans ce sens, c'est, spoiler, à un moment, il y a une friperie qui brûle. Pas d'enquête. Hein. Ils ont retrouvé un cadavre dedans quand même. Pas d'enquête, tout va bien.
Non, de toute façon, oui, avec des pauvres là-dedans, il y avait un clodo qui vivait.
Alors, faut savoir, c'est ça, on s'en fout. Que j'ai aimé quand je parlais de la culture coréenne, c'est quand on a été à Séoul, on a discuté avec des Français qui habitaient là-bas et on disait c'est fou, il n'y a personne qui fait la manche en fait dans la ville. Enfin, vous n'avez pas de SDF? Si, on a des SDF et en fait les SDF ne restent pas assis adossés à un mur à faire la manche en fait, mais entre guillemets ils travaillent et on les voit donc tirer ces espèces de chariots avec plein de détritus là où elle récupère son parapluie en fait, et ça c'est le SDF coréen. Donc tu peux dire ouais, effectivement, quand la cabane elle brûle, bon,
mais la cabane qui brûle c'est aussi dans un endroit qui est un peu perdu. Est-ce que il y a une enquête après? On n'en sait rien.
Après, le cadavre dedans,
oui, mais est-ce qu'ils le savent, les autorités, parce qu'on les voit jamais?
Ils le savent
mais on n'a pas aussi beaucoup de tant de films après.
Oui, on sait pas.
Oui, non, mais même il pourrait justement dire un truc dans le sens, il y a une enquête qui va être ouverte et tout ça. Mais non, c'est bien précisé dans le film qu'ils s'en foutent en fait, les gars. Hein. Affaire classée avant même qu'elle soit ouverte.
Oui, mais de toute façon, les enquêtes sont en règle générale assez rapides, même en France.
Ouais, ça m'a pas perturbé. Ouais,
j'ai trouvé que ça faisait partie de son propos. Ça m'a pas perturbé, trouvais que c'était record, mais ça me pense que ça fait partie de son propos.
Enfin, oui, voilà. Mais c'est pas non plus complètement dingue, puisque c'est globalement comment ça se.
Si on a un bâtiment qui brûle et qu'on retrouve un corps dedans.
C'est pas un bâtiment, c'est une cabane.
Même si c'est une cabane, si dès l'instant qu'il y a un corps dedans, en France. Il y aurait une enquête.
Oui, mais une enquête sommaire.
L'enquête, elle peut être soldée
fut-elle sommaire, mais au moins ils vont vérifier. Parce que quand même, je vais pas aller plus loin parce que sinon je vais spoiler le film. Le feu qui l'a tué, le gars. Hein.
Oui, mais
ça se voit. Enfin, surtout de la manière, ceux qui ont vu le film comprendront, surtout de la manière dont le personnage
est mort.
Après, c'est
vrai que ça arrive à la fin du film, peut-être qu'on ne sait pas. Enfin, tu vois, t'extrapoles un peu sur...
On n'a pas beaucoup de temps de film.
Ouais, le film se finit très vite derrière, donc...
Oui, oui, mais après, on se ressent, en fait, sur le personnage de la mère et de son fils, en fait. On retourne sur un côté assez intimiste, on oublie tout le côté enquête. À partir de ce moment-là, on rebascule dans le drame et on oublie le thriller. Donc voilà, moi je vais conclure là-dessus parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire. Après, je vous laisse la parole. Je l'ai trouvé moins bien que Memories of Murder qui était très rythmé. Là, il y a des moments où je me suis un petit peu ennuyé et loin de la maîtrise de Parasite ou d'un Snowpiercer. Parce que oui, j'ai aimé Snowpiercer.
C'est nul.
Justifie.
Non, ce serait trop long. Mother, moi je trouve qu'il y a des lenteurs au milieu du film. Enfin, je sais pas si ça vous a fait la même chose, mais je trouve qu'à des moments ça avance pas. La mère essaye d'avancer, mais le film n'avance pas. C'est-à-dire qu'on suit cette mère qui essaye de sauver son fils, mais j'ai pas l'impression que l'histoire avance. Elle fait des essais, mais pas concluant, ou alors avec des plans pas très intéressants.
Non, après ça c'est voulu aussi, il y a un petit côté, faut pas que, sinon ça aurait été trop facile, si à chaque fois qu'elle fait un truc,
oui,
ça avance.
Oui. Mais enfin voilà, je trouve, même au niveau de la réalisation, je trouve qu'il y a des plans intéressants au début, et un peu à la fin du film, mais au milieu, on dirait qu'il se laisse aller, quoi. On dit, bon, bah, c'est le milieu du film, tranquille, quoi. C'est un peu le ventre mou, voilà. Je trouve que c'est le ventre mou, le milieu.
Bon, je trouve que dans celui-là, effectivement, si le cinéma, même coréen, si on pousse un peu plus loin, c'est un peu un mélange des genres, chaque film. Je trouve que celui-là, il n'y a pas beaucoup de mélange, au final. Ça reste une enquête par une mère. Enfin, je veux dire, il y a quelques temps, on parlait de deux jours et nuit où il y avait... mince, l'actrice, je sais plus comment elle s'appelle, là, qui a remué ciel et terre,
Marion Cotillard,
pour regarder son boulot. Bah, là, c'est une mère qui remue ciel et terre pour prouver l'innocence de son fils, en fait.
Oui, mais là, à des moments, il y a quand même des...
Moi, je l'ai vu, comme je disais tout à l'heure, moi, je l'ai vu, ma deuxième vision. J'ai tellement trouvé de détails de la société coréenne, et en fait, j'ai redécouvert. Donc, moi, j'ai pas vu de ventre mou, parce qu'en arrière-plan, je voyais toujours des trucs, en fait. Alors, ça amène rien à l'histoire.
Mais ça amène rien à l'histoire.
Non, ça amène rien à l'histoire, c'est pour ça.
Mais ça, c'est pas un procès qu'on peut faire au film. On peut très bien distiller des trucs sans que ça fasse apporter quelque chose à l'histoire.
Mais ça fait ventre mou, et ça.
Ventre mou, ça dépend si.
Et le problème d'un film qui n'apporte rien à l'histoire, enfin en tout cas des séquences qui n'apportent rien à l'histoire, ça ne sert pas le propos. Donc,
moi j'ai trouvé que
ne pas faire avancer l'histoire, mais servir le propos. Et en l'occurrence, il n'y a aucune scène qui ne sert pas le propos du film.
Si,
parce que toutes les scènes où l'histoire, entre guillemets, pourrait être entre guillemets en pause. Elle sert à montrer, à créer un peu de background, à montrer un peu ce que c'est la société coréenne.
Et puis à montrer l'acharnement de cette mère, parce qu'effectivement, entre le début du film et la fin, tu peux tout enlever, parce qu'au final, c'est que des fausses pistes qu'elle a, en fait. On la voit enquêter, et à chaque fois, elle se rend compte que non, c'est pas ça. Donc effectivement, tu prends à partir du moment où la mère enquête, et au moment où elle brûle l'entrepôt, où elle comprend, en fait, tu peux enlever tout ce qui est au milieu, en fait, et ça, effectivement, ça sert à rien pour le film. Par contre, ça met de l'ambiance, en fait. Ça met le...
C'est son fils, de toute façon, qui lui donne du charbon à chaque fois qu'elle se retrouve.
En plus,
c'est lui qui lui redonne à chaque fois un nouveau truc et qui fait avancer son truc, enfin, et elle recommence à partir de là. Et systématiquement, je trouvais que ça devenait... ça devenait chiant, des moments. Moi, je me suis fait chier.
Moi, j'ai aimé, même si toutes ces fausses pistes, en fait, j'ai aimé. Et puis bon, après, moi, à la fin, elle m'a tellement...
Déjà, au bout d'une demi-heure, je pense à un remar. Au bout de trois quarts d'heure, il y a une scène qui... Tu dis, tiens, pourquoi ? Bon. Et
laquelle ?
Après, la scène où il y a... où c'est le meilleur pote de son fils qui se retrouve avec une femme
qui
allait planquer. Tu dis, bon, pourquoi pas ? Et même là, je trouve que c'est lent parce qu'elle essaye de se barrer. Bon, on se doute qu'elle va arriver à se barrer. Et puis ça dure. Je suis bon, est-ce que ça sert le propos ? Je sais pas. Moi, perso, je trouve
C'est l'un des quelques moments comédie du film, je trouve. Moi, ce passage-là, il m'a fait rire. Elle essaie de marcher sur les
yeux. Alors là, effectivement, peut-être. Je me contredis, mais bon, c'est pas bien grave, j'ai l'habitude. Mais effectivement, à la limite, là, il y a un peu une espèce de thriller. La mise en scène, tu vois, elle est dans une pièce, il y a quelqu'un qui rentre. Non, mais effectivement, le film, c'est un peu, il rayonne, effectivement, elle retrouve toujours voir son fils qui lui donne des nouveaux indices, elle a des nouvelles pistes, ainsi de suite, jusqu'à ce que la fin.
Elle finit par avoir le fin mot de l'histoire, mais c'est voilà, je trouve que c'est pas forcément. C'est pas la même chose que ce qu'a pu faire dans ses productions américaines, mais c'est pas au niveau de Parasite. Alors j'ai pas vu les trois d'avant, donc je peux pas en parler, mais bon, c'est pas un film qui m'a hyper passionné. Je trouvais ça un peu lent. Enfin, long surtout aussi. Parce que c'est 2 heures, je crois, si j'ai mon souvenir.
C'est un film où il y a Bong Joon-ho, il y a un acteur là, qu'on voit régulièrement là, dans ses films, qu'on voit aussi dans...
Song Kang-ho.
Ouais, voilà, ouais, qui joue pas dans ce film, en fait. Mais tous les films que j'ai vus de lui, il était dedans.
Mais bon, c'est quand même un film de plus de 2 heures. Je trouve que c'est long pour ce qu'elle fait, quoi. Voilà.
Ah, moi, j'ai pas trouvé, franchement, j'ai pas trouvé le temps long. Hein.
Moi, je trouvais ça long, assez long.
Ouais, non, mais pourquoi pas, hein, ça se tient.
Voilà. Bon,
on va parler, pour conclure l'émission, après la pause musicale, on va parler d'un autre film qui est long aussi.
Qui est lent. Mais avant, on va écouter Axel F.
C'est le frère de Axel Red ?
Non, c'est le flic de Beverly Hills.
Yeah.
De Harold Faltermeyer.
C'est Crazy Frog.
C'était avant Crazy Frog, parce qu'il a repris.
Ah, c'était chaud là.
Et on va enchaîner sur. C'est quoi le film que vous avez parlé ?
Le cas Richard Jewell.
Ah oui, c'est
fort.
Alors, le cas Richard Jewell, c'est le dernier film de Clint Eastwood qui, depuis maintenant 30 ans, nous fait des films de façon régulière.
Jusqu'à dans pas longtemps, à mon avis, il n'en fera plus parce qu'il commence à fatiguer.
Il commence à pas être jeune. Hein,
déjà, son précédent film, La Mule, on voit qu'il est commence à être un peu fatigué.
Bah oui, c'est sûr. Mais là, il n'est pas acteur. Donc voilà, dans une chaise de réalisateur, il peut durer un petit peu plus longtemps. Puis je pense qu'il a l'air encore suffisamment en forme, le nanar. Hein. Je pense qu'il peut encore durer quelques temps. Bref, on n'est pas là pour faire sa nécro.
On lui souhaite en tout cas.
Voilà, on n'est pas là pour faire sa nécro en avance. On est là pour parler du cas Richard Jewell. Le cas Richard Jewell, c'est un drame biographique qui est inspiré de l'agent de sécurité qui a trouvé la bombe lors des Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. Rapidement, l'histoire. Donc, du coup, cet agent de sécurité, Richard Jewell, trouve la bombe, est considéré comme un héros, et 24 heures plus tard, est considéré comme l'ennemi public numéro 1 parce que pour tout un tas de raisons, son passé qui est un petit peu étrange, le gars en lui-même qui est un petit peu étrange et tout ça. Et donc du coup, va commencer un combat pour montrer qu'il n'a rien fait, que c'est véritablement un héros et que ce n'est pas le terroriste. Voilà, en gros, rapidement, ce que c'est l'histoire. Donc, Paul Walter Hauser qui tient le rôle de Richard Jewell, avec Sam Rockwell, excellentissime, qui joue son avocat. Le film, si on peut le simplifier comme ça en disant que c'est un drame, une fable morale, qui montre, en gros, comment un individu peut se sentir, enfin, peut être totalement dépassé par des puissances et vulnérable face à des puissances qui le dépassent totalement. Et ces puissances, c'est évidemment l'État, la presse à sensation, etc., qui peuvent faire et défaire des réputations en moins de 24 heures. Moi j'ai trouvé que le film était excellent de bout en bout. Clint Eastwood a été vraiment très très bon à nous dépeindre un gars qui d'emblée est présenté comme étant entre guillemets pas net. On est toujours sur la ligne. Il arrive à faire qu'on a un doute quasiment tout le long du film. Je mettrai juste un bémol, parce qu'il faut bien un mais. Le mais, c'est la représentation de la presse qui est interprétée par Olivia Wilde, la journaliste interprétée par Olivia Wilde, qui, à côté de l'écriture brillante dont a bénéficié Richard Jewell, son avocat joué par Sam Rockwell, sa mère jouée par Cathy Scrubs, son nom m'échappe, est une écriture, mais alors d'un cliché pas possible. Tu prends tous les clichés de la journaliste qui veut à tout prix avoir un scoop, c'est dedans.
D'accord.
Ce personnage-là, franchement, il est mal écrit. Et ça m'ennuie un petit peu pour Olivia Wilde qui n'a pas eu beaucoup de
dialogue.
Qui n'a pas beaucoup de dialogue, oui, bien sûr.
Mais pas beaucoup de jeux d'acteurs, peut-être.
Non, mais elle a trois scènes ou quatre scènes.
Bah, elle n'a pas suffisamment de scènes, alors que c'est une bonne actrice, mais elle n'a pas l'occasion de le montrer. Et puis surtout, son personnage est à mon sens, mal écrit.
Bah, peut-être qu'il est proche de la réalité, je ne sais pas.
Justement, il y a eu une polémique là-dessus qui dit que justement, il est vachement loin de la réalité parce que dans le film, ils font un parallèle comme quoi elle coucherait pour avoir des informations et en fait, c'est pas du tout.
Là où c'est malhonnête dans la démarche, c'est que la journaliste est morte.
Ah oui.
Donc elle peut même pas se défendre. Donc c'est-à-dire qu'il l'a décrit d'une façon un peu clichetonesque et elle peut plus se défendre. Donc c'est un peu.
Ah, c'est un raccourci facile.
C'est même pas un raccourci en fait. C'est un raccourci scénaristique. Ah,
parce que franchement, ce personnage-là est assez problématique. Ça n'empêche pas le film de se tenir. Hein. Loin de là, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que ça, c'est le petit bémol qui aurait fait que le film passe de bon à très très bon.
D'accord. Quoi d'autre sur ce film? Il est produit par Leonardo DiCaprio. Et on a dans les acteurs Sam Rockwell,
oui,
et Ian Gomez, l'agent fédéral.
John Hamm.
Il est important, l'agent fédéral.
Il est à peu près au même titre que Olivia Wilde. Ouais, il a 4-5 scènes, mais son personnage est beaucoup mieux écrit que le personnage de la journaliste.
Ok. Bon, on va s'arrêter là-dessus.
Eh ben, on s'arrête là-dessus.
Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, le lundi à 14h. Au revoir.
Au revoir.
Bon après-midi.